Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, vous l'avez entendu, donc des commentateurs hystériques, des fans de foot surexcités qui n'attendaient que cela, le démarrage de la Coupe du Monde en Russie. Honneur aux pays hôtes et donc à l'équipe russe qui jouait à 17h heure de Paris contre l'Arabie Saoudite. Cette 21e édition du Mondial est l'occasion de retrouver les habitués, le Brésil, l'Allemagne ou encore la France, mais aussi des petits nouveaux comme le Panama et surtout l'Islande. La plus petite nation à jamais s'être qualifiée pour une Coupe du Monde fait ses grands débuts samedi contre l'Argentine et le fameux numéro 10 Lionel Messi. Et sur la petite île volcanique, la fièvre monte. Reportage à Reykjavik de Jérémy Richard.
En plein cœur de la capitale islandaise, Hljómskálagarður vit ses derniers préparatifs. Pelouse tondue, stand de restauration installé, ce petit parc dont le prolongement du lac qui fait face à l'hôtel de ville de Reykjavik accueille l'écran géant qui retransmettra toutes les rencontres de l'Islande en plein air et dont la première face à l'Argentine. Kjartan Sigurbjörnsson, 30 ans, ne tient plus en place.
Je suis impatient, nerveux aussi bien sûr. L'Argentine en adversaire pour débuter, c'est probablement l'une des meilleures équipes de l'histoire du foot. Et ce numéro 10 que l'on va devoir stopper. Je crois que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais confiant, nerveux et excité.
Le numéro 10, c'est bien évidemment Lionel Messi. Car comme en 2016 à l'Euro, premier tournoi international auquel elle a pris part et où elle avait fait ses débuts contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'Islande commence son premier mondial contre une nation qui compte aussi dans ses rangs l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Thor Hafþórsson, 28 ans, n'est pas serein à 100%, mais il y croit.
Je ne sais pas comment nous allons stopper Messi. En même temps, l'Argentine a été assez moyenne dans ses matchs de qualification. Je sais qu'ils ont une équipe fantastique, particulièrement en attaque, mais j'ai le sentiment qu'on peut les exposer en contre. Donc je suis rempli d'espoir, même si je sais que je serai très tendu le jour du match.
En terminant première de son groupe de qualification devant la Croatie et la Turquie notamment, l'Islande avec ses quelques 350 000 habitants est devenue la plus petite nation à s'être qualifiée pour une Coupe du Monde. Après l'Argentine, ce sera le Nigeria puis la Croatie que l'Islande affronte d'ailleurs régulièrement en qualification ces dernières années. Un groupe pas évident, surtout pour des novices, mais c'est ce dont rêvait Thor depuis sa plus tendre enfance.
C'est bien plus stimulant de jouer ces équipes que de jouer contre des plus petits pays. On a montré contre le Portugal qu'on était capable de plutôt bien museler Ronaldo. Bon, l'Argentine en tant qu'équipe est un monstre différent, mais c'est le premier match et je crois que c'est mieux de débuter par eux. Si on perd, il nous reste deux matchs à jouer.
Ils seront plus de 8000 Islandais à faire le déplacement en Russie pour les trois matchs de groupe, selon les chiffres de la FIFA, moins nombreux qu'en France, car le déplacement est plus lointain et plus coûteux. Parmi eux, un supporter devenu à jamais associé aux exploits d'une équipe grâce à ses envolées lyriques. Jimmy Penn sera de nouveau le commentateur de l'équipe nationale sur la Ruhr, la télévision publique. Le stress est grandissant à l'approche de ce qui est aussi pour lui sa première Coupe du Monde. La première impression est capitale.
Le premier match est très important pour l'Islande. Ce n'est pas qu'une question de résultat, car peut-être nous allons perdre ce match, je crois d'ailleurs que la plupart des gens le pensent. Alors si c'est le cas, nous devons perdre avec panache, en ayant tout donné, car si nous perdons en ayant fait un bon match, je pense que nous pourrons nous hisser jusqu'en huitième de finale.
À Reykjavik ou à Moscou, Volgograd et Rostov-sur-le-Don, les Islandais pourront compter sur le soutien sans faille de toute une nation. Le clapping popularisé en France il y a 2 ans pendant l'Euro résonnera assurément dans les stades, souvent imité depuis, notamment par les supporters des Bleus, et Thor n'y voit pas d'inconvénient.
Je crois que c'est normal. Mon équipe préférée en Islande, Stjarnan, l'a emprunté au club écossais de Motherwell. J'ai trouvé ça un peu idiot que la France le fasse à l'Euro, mais nous devons juste faire en sorte de le faire mieux que quiconque.
Son camarade, Hrafn Martinsson, acquiesce.
Si les gens veulent le faire aussi, pas de problème. Ils peuvent toujours essayer. Mais nous serons les meilleurs de toute façon.
Voilà, les supporters islandais pourront en profiter samedi prochain pour le match Islande-Argentine. C'était le reportage de Jérémy Richard. Malgré le ralentissement des flux de migrants vers l'Europe, les pays de l'Union se montrent aujourd'hui encore incapables de s'entendre sur une politique commune d'asile. Le 5 juin dernier, le Conseil des ministres de l'Intérieur s'est déchiré autour du projet de compromis de la présidence bulgare. Dans le même temps, les gouvernements durcissent leur position, comme on vient de le voir avec l'interdiction d'accostage d'un bateau en Italie et à Malte. Peut-on alors espérer qu'un jour, les 27 parviennent à définir une approche commune, alors que les idées populistes et nationalistes gagnent du terrain dans l'Union ? C'est ce qu'on va voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors tout d'abord, quelle politique est proposée au gouvernement européen ?
L'agenda européen sur les migrations qui visait dès 2015 à mettre sur pied une véritable politique européenne en la matière était assez ambitieux. La Commission proposait une harmonisation du droit d'asile, une répartition automatique et équitable des migrants entre les pays membres, assortie de soutien financier, des dispositifs d'aide financière au retour, un plan d'investissement en Afrique. Mais l'explosion des flux migratoires, la division de l'Europe entre pays confrontés au débarquement des réfugiés et pays fermant hermétiquement leurs frontières, a rendu très délicate l'adoption d'une pareille législation. L'actuelle présidence bulgare proposait donc un compromis susceptible de concilier les intérêts antagonistes.
Un compromis, Daniel, qui a pourtant fait un flop lors de cette dernière réunion des ministres de l'Intérieur.
Oui, parce que les positions ne cessent de se radicaliser en Europe. Il y a d'abord les pays qui refusent tout partage du fardeau migratoire, en gros l'Europe centrale. Ce groupe dit de Visegrad est même de plus en plus dur depuis que la Slovaquie et la République tchèque partagent le discours de fermeture de la Hongrie et de la Pologne. En outre, Visegrad reçoit aujourd'hui le renfort de l'Autriche, dont le ministre de l'Intérieur est désormais national populiste, et du Danemark, dont le gouvernement est soutenu par les populistes. Ces deux pays vont jusqu'à prôner l'ouverture dans la région des Balkans de camps d'internement pour les déboutés du droit d'asile que leur pays d'origine refuse de reprendre. Sans compter la Belgique, dont le ministre de l'Intérieur nationaliste flamand suggère de passer outre l'interdit de la Cour européenne des droits de l'homme en empêchant les bateaux de migrants d'accoster. C'est précisément ce que vient de faire Matteo Salvini, le nouveau ministre italien de l'Intérieur issu des nationalistes de la Ligue, en refusant au navire l'Aquarius et à ses 629 migrants l'accostage en Italie.
Et que veut l'Italie finalement ?
D'abord, un partage du fardeau via l'accueil des réfugiés par d'autres pays comme la France ou l'Espagne. L'Espagne qui va finalement recevoir l'Aquarius, on le sait. Et puis, pour un pays qui a vu débarquer plus de 600 000 réfugiés depuis 2015, les règles européennes sont déjà lourdes puisqu'elles lui imposent de conserver pendant 18 mois la responsabilité de gérer les migrants enregistrés à leur arrivée sur son territoire. Ainsi, la France a demandé l'an dernier le renvoi de 26 000 réfugiés en Italie et en Allemagne. Or, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de prolonger cette responsabilité à 8 ans. Ainsi, un clandestin débarqué à Messine et qui va se cacher en France pourrait être renvoyé en Italie après 7 ans passés dans l'Hexagone. De plus, la répartition dans d'autres pays des migrants arrivés en Italie ou en Grèce, ce fut le cas en 2016, ne serait pas automatique mais réservée aux périodes de crise. Inacceptable pour Rome.
Alors, quel est le bilan justement de ces relocalisations de migrants ?
Selon Bruxelles et les données officielles, pratiquement tous les migrants venus de Grèce ou d'Italie ont été répartis dans d'autres pays. La réalité est moins glorieuse. Sur près de 100 000 migrants à répartir, seuls 34 000 l'ont été effectivement. Explication, le temps de mettre en place les points de contrôle, 60 000 réfugiés se sont relocalisés d'eux-mêmes en franchissant clandestinement les frontières.
Et ils se retrouvent toujours essentiellement en Allemagne ?
Oui, à 60%, puisque en 2016 et 2017, ce pays a accordé un titre de séjour à 770 000 personnes, contre 100 000 en Suède, 75 000 en France et 70 000 en Italie. Ce qui fonctionne de façon plus égalitaire, c'est le système que l'on appelle les réinstallations. Elles concernent les réfugiés en situation de fragilité que l'on va chercher dans les camps en Turquie, Jordanie, Libye ou Niger et que l'on accueille en Europe. Sur 34 000 personnes concernées depuis 3 ans, l'Allemagne en a accueilli 7 000 et la France 5 700. Mais ces réfugiés sont plus faciles à accueillir, ils sont présélectionnés et surtout chaque prise en charge est doté de 10 000 euros provenant du budget européen.
Est-ce que la France et l'Allemagne continuent à défendre le principe de l'accueil raisonné des réfugiés en Europe ?
On aimerait pouvoir le dire, mais en réalité, la France et désormais l'Allemagne font tout pour se protéger. N'oublions pas que Horst Seehofer, président de la droitière CSU bavaroise, est depuis quelques mois ministre allemand de l'Intérieur et qu'il s'intitule lui-même ministre de l'Intérieur et de la Patrie. De surcroît, il reçoit à bras ouverts en Bavière le très nationaliste Premier ministre hongrois Viktor Orban. Comme le constate avec amertume Yves Pascuo, chercheur à l'université de Nantes sur les questions de migration en Europe, il est désormais vain de penser que les États européens vont partir à la défense de la cause migratoire. Sauf réveil peu probable de la société civile, cette situation va donc continuer à gangréner la vie de l'Union européenne pendant de longues années.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Tonight at 6, a huge fire engulfs a tower block in London. At least 12 people have been killed, dozens injured, and the death toll is expected to rise. Up to 600 people lived here. The fire broke out just before 1 this morning. Fire crews were on the scene just 6 minutes later.
We need to ring 999. There is a dedicated line.
Les informations, il y a tout juste un an, lorsque des milliers de Londoniens se sont réveillés aux lueurs d'un ciel en flammes, la tour de Grenfell dans le quartier de Kensington à l'ouest de la capitale était en train de brûler. L'incendie s'est déclenché au 4e étage et il s'est propagé jusqu'au sommet de l'immeuble HLM à une vitesse qui reste encore incompréhensible. Bilan, 72 morts. Alors que les rescapés proches des victimes se sont recueillis la nuit dernière en souvenir de la tragédie, l'enquête publique, elle, ne vient que de commencer. Marie Billon.
Un an après le drame, Thomasina vit toujours dans une chambre d'hôtel avec son fils de 4 ans. Cette jeune femme de 32 ans habitait juste à côté de la tour. La pièce est remplie de jouets, le canapé est recouvert d'habits. Il sert d'armoire, avoue Thomasina. Son petit garçon et un copain de classe jouent avec des dinosaures au pied du lit.
On doit manger dehors tout le temps, il n'y a pas de cuisine. Mais nous avons reçu une aide financière des autorités locales. J'ai même eu les moyens d'inscrire mon fils aux activités périscolaires. Comme ça, il n'est pas obligé de rentrer tout de suite et il peut être plus longtemps avec d'autres enfants. Heureusement, dans cette affaire, l'argent n'a pas été un problème.
Le fils de Thomasina va toujours dans la même école. L'un de ses anciens camarades et sa mère sont morts dans l'incendie. Thomasina a été évacuée la nuit du drame et elle a encore du mal à repenser à ce moment-là.
Mon appartement est l'un des plus proches de la tour. Aujourd'hui, il est à l'intérieur du cordon de sécurité. Donc de là, on entend les ouvriers tout le temps, les travaux, les alarmes, les camions. Récemment, j'ai essayé de rester sur place une nuit, mais j'ai eu une crise d'anxiété, je n'ai pas pu dormir. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et le premier anniversaire, ça n'aide pas. Je ne suis pas encore sortie de là. Pour nous tous, la tragédie n'est pas terminée, tant que nous n'avons pas retrouvé de logement.
Thomasina ne veut pas retourner dans son ancien appartement. Il est trop près de la tour et trop petit. Dans quelques semaines, elle va enfin déménager dans une petite maison, mais pour quelques mois seulement. Ce qu'elle veut, c'est revenir dans son quartier parce que ses voisins lui manquent.
Je serai logée en dehors de l'arrondissement. On est tous un peu dispersés dans le centre ou l'ouest de la capitale. Tout le monde a le droit de quitter le quartier si c'est leur souhait. Je sais que certains survivants, malgré ce qui s'est passé, veulent revenir dans le quartier parce que c'est leur communauté, parce qu'ils ont grandi là. Il y en a d'autres qui ne souhaitent qu'une chose, partir.
Abshir vit dans le quartier, à quelques minutes à pied de Grenfell. Et même si la vie semble avoir repris son cours, dit-il, en marchant le long d'une rue commerçante, rien n'est réglé.
Les gens vont toujours très mal. Car la tour continue de les hanter. Ça leur rappelle qu'ils sont dans un combat quotidien pour connaître la vérité. C'est ce qu'ils veulent le plus.
Faire la lumière sur cet incendie, c'est le but de l'enquête publique qui a débuté fin mai. Pendant 2 semaines, les familles de victimes ont parlé de leurs proches. Un moment cathartique avant que des experts ne prennent la parole pour tenter de comprendre et d'expliquer comment le feu s'est propagé si rapidement.
And the Fire Brigades Union invites you, sir, to consider whether the firefighters were put in an impossible position.
La police métropolitaine de Londres a annoncé une enquête sur la Stay Put Policy mise en œuvre ce soir-là, lorsque les pompiers ont demandé aux résidents de rester chez eux. Décision contestée par les experts qui estiment qu'il aurait fallu évacuer les habitants bien plus rapidement que cela ne l'a été fait. Le 7 juin, Martin Seward, un avocat pour le syndicat des pompiers de Londres, a témoigné. Pour lui, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu réagir plus tôt. Ils ne savaient pas en effet que la tour n'était pas conforme aux normes de sécurité anti-incendie. L'avocat a ensuite détaillé les manques de la société gestionnaire de l'immeuble.
Je voudrais évoquer l'état de la tour de Grenfell cette nuit-là. Le cadre des fenêtres, le revêtement, les briques coupe-feu, parfois absentes, d'autres fois mal installées, tout ça a participé à créer des conditions catastrophiques. Certaines mesures de protection anti-incendie n'étaient pas adéquates, notamment les portes des appartements qui n'ont pas résisté aux flammes assez longtemps, l'unique cage d'escalier, trop étroite, le système de ventilation qui ne pouvait pas fonctionner partout en même temps, les ascenseurs qui ne pouvaient pas être contrôlés par les pompiers, il n'y avait pas de système d'extincteur automatique à eau. L'Union des sapeurs-pompiers est d'accord sur l'analyse en disant que, après les travaux de rénovation de 2011 à 2016, la tour était devenue un piège hautement combustible et mortel.
Les experts ont jusqu'à novembre pour témoigner. Après cela, l'enquête publique devra notamment se demander sur qui repose la responsabilité de la tragédie. Le travail devrait durer jusqu'à 2020.
Quand ce n'est pas un immeuble HLM qui prend feu, c'est la difficulté de se loger pour les habitants les plus modestes. Le problème gagne toutes les grandes métropoles européennes. Aux Pays-Bas, à Amsterdam notamment, les prix de l'immobilier atteignent désormais des sommets, à tel point que beaucoup de Néerlandais ne peuvent plus se permettre d'y habiter. La forte demande de logement se répercute désormais sur d'autres grandes villes du pays, comme La Haye ou encore Rotterdam, Antoine Moutot.
La nouvelle Amsterdam, voilà comment certains médias néerlandais ont récemment rebaptisé La Haye. Dans la troisième ville du pays, les prix de l'immobilier ont augmenté de 24% en 2017. C'est 2 fois plus que la hausse constatée sur la même période à Amsterdam, pourtant d'habitude championne nationale de la cherté des logements. À Rotterdam, les prix sont 15% plus hauts qu'un an auparavant et dans le reste du pays, on en est à une bonne moyenne de 10%. Faute maisons et appartements abordables à Amsterdam, les ventes ont explosé dans les autres grandes villes du royaume. C'est en tout cas l'amer constat d'une étude menée par l'organisation néerlandaise des agents immobiliers. Et cette folie immobilière atteint ses limites puisque les ventes chutent désormais moins 13% au premier trimestre 2018. Selon l'organisation des agents immobiliers, il y aurait 3 grands responsables à cette pénurie. Les propriétaires, d'abord, qui ne mettent leur logement en vente que lorsqu'ils sont sûrs d'avoir trouvé un meilleur bien pour acquisition. Les expats, ensuite, ces étrangers qui viennent travailler aux Pays-Bas pour des salaires parfois très élevés auprès d'organisations internationales et grandes entreprises. Ils peuvent souvent se permettre d'acheter ou de louer plus cher que les autres habitants. Rien qu'à La Haye de 2009 à 2015, le nombre d'expatriés est passé de 40 000 à 60 000. Et enfin, les investisseurs et leurs nombreux placements immobiliers. 3 facteurs qui rendent l'accès difficile à un premier achat, notamment pour les plus jeunes néerlandais. En un an à peine, le nombre de logements achetés pour moins de 150 000 euros a baissé de 40% et le marché de la location n'est pas non plus épargné. Les appartements et maisons à louer pour des prix convenables se font de plus en plus rares. Interpellée par plusieurs organisations, la ministre du Logement, Kajsa Ollongren, a annoncé la semaine dernière vouloir encourager la construction de 75 000 logements supplémentaires par an, soit près d'un million d'ici 2030.
À la réalisation d'Accent, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook et je vous dis à demain.